Bon, il faut réfléchir aujourd'hui différemment à l'inflation de la façon dont on le faisait dans le passé. Dans le passé, c'était relativement simple. À long terme, puisqu'ici on parle du long terme, l'inflation était un phénomène purement monétaire. Ça part de l'égalité entre l'offre et la demande de monnaie. La demande de monnaie est une demande de monnaie qu'on appelle de transaction, donc la monnaie elle sert à consommer. Et donc quand on avait plus de monnaie, à l'équilibre de long terme, il fallait avoir pour le même montant une demande de monnaie supérieure, c'est-à-dire que la monnaie offerte soit demandée. Et comme à long terme, le volume de la production il dépend des caractéristiques techniques de l'économie, la démographie, le progrès technique, si vous créez davantage de monnaie, à long terme, il y avait davantage d'inflation des prix des biens et services. Donc il fallait en gros que la valeur de la consommation suive la même trajectoire que l'offre de monnaie fabriquée par les banques centrales. Et donc, quand on avait une croissance de l'offre de monnaie plus rapide, on aboutissait à une inflation plus forte. Donc ça, c'est la théorie traditionnelle, c'est la théorie qu'on appelle la neutralité monétaire. C'est encore comme ça qu'on enseigne la macroéconomie le plus souvent, l'équilibre entre l'offre et la demande de monnaie crée à long terme une relation très très stricte entre la croissance de la quantité de monnaie et la croissance des prix des biens et services. Alors malheureusement, depuis 40 ans, ça ne marche plus du tout. C'est-à-dire, quand vous regardez l'évolution de la quantité de monnaie, quelle que soit la définition de la quantité de monnaie, que ce soit la monnaie détenue par les agents économiques, la monnaie créée par la Banque centrale, etc., et l'évolution des prix, il n'y a absolument aucune relation. Le pays qui a le plus augmenté la quantité de monnaie depuis 20 ans, c'est le Japon. L'inflation au Japon, elle est négative. Sauf quand ils augmentent la TVA, ce qui crée une inflation parfaitement mécanique. Donc il n'y a absolument plus quantitativement aucune relation entre la quantité de monnaie et l'inflation mesurée comme la hausse des prix des biens et services, les prix de la consommation. Et par contre, ce qu'on voit arriver, c'est une relation qui est assez robuste entre l'augmentation de la quantité de monnaie et les prix des actifs. Et les prix des actifs, ça veut dire les cours boursiers, les prix de l'immobilier, la valeur des entreprises, etc. On peut généraliser le prix du bitcoin, enfin, on peut avoir une vision beaucoup plus large des prix des actifs. Alors, quel est le mécanisme ? Dans la macroéconomie traditionnelle, on suppose à nouveau que la monnaie, ça sert à consommer. Donc, la quantité de monnaie, elle est proportionnelle à la consommation. Et donc, quand il y a plus de monnaie, il faut qu'il y ait plus de consommation. Et comme le volume de la consommation, il dépend des caractéristiques techniques de l'économie, il faut que les prix de la consommation augmentent. Dans les économies contemporaines, la monnaie, c'est un élément de la richesse des agents économiques. Les agents économiques, ils ont une richesse qui se décompose entre de la monnaie, des obligations, des actions, des logements, etc. Et donc, si vous leur donnez plus de monnaie, ils vont avoir initialement trop de monnaie. La monnaie sera une partie trop importante de leur richesse par rapport à leurs besoins. Et ils vont réinvestir cette monnaie dans les autres classes d'actifs. Donc, ils vont acheter des obligations, ils vont acheter des actions, ils vont acheter des logements. Et le rééquilibrage de la structure de la richesse, elle va se faire par la hausse des prix des obligations, c'est-à-dire par la baisse des taux d'intérêt à long terme, par la hausse des prix des actions, la hausse des cours boursiers, par la hausse des prix de l'immobilier. Et c'est la hausse de ces prix qui va faire que le poids de la monnaie dans la richesse va diminuer parce que le poids des autres classes d'actifs va augmenter comme les prix augmentent. Et donc, on a aujourd'hui une monnaie qui est une monnaie d'investissement, une monnaie de placement et beaucoup moins qu'avant une monnaie simplement qui sert à consommer. La monnaie, d'abord, c'est énorme. Les gens détiennent beaucoup de monnaie et c'est un bout de leur portefeuille financier. Donc, c'est quelque chose qui rentre dans la structure de leur richesse. Et donc, dans cette logique-là, quand vous augmentez la quantité de monnaie, vous faites varier de façon parallèle les prix des actifs, des obligations, des actions, de l'immobilier, etc. Et c'est exactement ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'empiriquement, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une vraie proportionnalité empirique dans nos économies, entre la croissance de la quantité de monnaie, la croissance des prix des obligations, la croissance des cours boursiers, la croissance des prix de l'immobilier. Alors, c'est de là que vient le débat sur les bulles. Alors, au départ, il y a assez longtemps dans la littérature, les bulles, c'était autre chose. Les bulles, on avait une littérature qui était sur les bulles rationnelles. Les bulles rationnelles, c'est juste une possibilité qui est toujours ouverte. Il n'y avait absolument pas cette discussion sur la monnaie. C'était de dire qu'on pouvait avoir des mouvements où un prix des actifs montait très au-dessus de sa valeur normale, puis retombait sur sa valeur normale et que c'était rationnel. Alors, je passe les détails techniques. Hein. Donc, il y avait une espèce d'oscillation des prix des actifs qui, à la fin, revenait sur la valeur normale, mais qui pouvait passer par des prix plus élevés. Hein. C'est ce qu'on appelait les bulles rationnelles. Ça date des années 70-80. Mais là, il ne s'agit plus du tout de ces bulles-là. Il s'agit d'une hausse anormalement forte des prix des actifs qui vient de l'équilibre monétaire et de l'équilibre de portefeuille. À nouveau, c'est l'effet de la création monétaire sur les achats des différents actifs par les épargnants, à qui, si on leur donne de la monnaie, vont utiliser cette monnaie pour acheter les autres actifs, qui fera monter les prix des actifs. Donc, dans les économies contemporaines, les bulles, c'est un phénomène monétaire. Alors, vous rappelez ce que disait Milton Friedman, hein, il disait « à long terme, l'inflation est un phénomène purement monétaire ». Donc ça, c'était la vieille théorie, hein, cette proportionnalité entre la quantité de monnaie et la valeur de la consommation. Aujourd'hui, on peut dire, en paraphrasant Friedman, qu'à long terme, la hausse des prix des actifs est un phénomène purement monétaire. Ce qui détermine la croissance des prix des actifs à long terme, c'est la croissance de la quantité de monnaie. Et ça veut dire que nous n'avons plus de référence à la valeur fondamentale des actifs. Pour une action, la valeur fondamentale, c'est les profits futurs de l'entreprise. Mais ce n'est plus ça qui détermine les cours boursiers aujourd'hui. Ce qui détermine les cours boursiers aujourd'hui, c'est le fait que l'abondance de la monnaie disponible fait qu'on achète des actions avec cette monnaie, que ça fait monter les prix des actions. Et ce qui monte, en fait, c'est ce qu'on appelle c'est la valorisation des actions. C'est-à-dire ce qu'on appelle le PER, hein, dans le jargon de la finance, c'est le rapport entre le prix d'une action et les bénéfices futurs de l'entreprise. C'est ce rapport-là qui monte. Donc, ce n'est pas du tout les bénéfices qui montent, c'est simplement la valorisation de ces bénéfices. Mais vous voyez, mécaniquement, parce que le prix de l'action est poussé vers le haut par l'utilisation de la monnaie disponible pour acheter des actions. Donc on a une configuration où les prix des actifs, à nouveau des obligations, des actions, de l'immobilier, des entreprises, ne reflètent plus leur valeur fondamentale, qui est les revenus que vont procurer ces actifs dans le futur. Enfin, le prix d'un logement, ce n'est plus quelque chose qui dépend des loyers futurs que la propriété de ce logement permet de recevoir. Ça dépend simplement de la quantité de monnaie disponible dans l'économie pour acheter des logements. Donc on a une déviation croissante entre les prix des actifs et la valeur normale de ces actifs qui est liée aux revenus que ces actifs procurent. Ce qui évidemment veut dire que les multiples de valorisation de ces actifs n'arrêtent pas d'augmenter. Alors ça se voit aussi sur les entreprises. Quand dans les acquisitions d'entreprises, en général, on calcule le prix qu'un acheteur, en général une autre entreprise ou un fonds d'investissement est prêt à payer, comme un multiple des produits, des profits de l'entreprise, ce qu'on appelle l'EBITDA, ça, c'est les profits de l'entreprise après les amortissements et les paiements d'intérêts. Donc on dit, je suis prêt à payer cette entreprise X fois ses profits. Vous voyez que ça monte sans arrêt. Ça a été 8 fois les profits, 10 fois les profits, 15 fois les profits, 18 fois les profits. Et pourquoi ça monte? Parce qu'il y a de la monnaie et que cette monnaie fait qu'on peut acheter des entreprises et donc la valorisation des entreprises augmente, ce qui n'a pas de rapport avec une hausse des profits des entreprises. C'est juste qu'on paye plus cher les mêmes profits. Donc vous voyez, c'est ça la bulle contemporaine. Donc une déviation permanente entre le prix d'un actif et ce qui serait cohérent avec les revenus que cet actif va procurer.